Pour entamer la réflexion, je souhaiterais commencer par reprendre les mots mêmes de Pierre Chaunu, qui, dans une conférence prononcée à la Casa de Velázquez à Madrid en 1999, s'exprimait en ces termes, je cite, « Je ne suis pas un hispaniste, tout au plus un pauvre petit hispanisant par raccro, ce qui n'implique pas que la fière et généreuse Espagne n'ait pas été dans notre vie une chance, que même si je ne lui ai pas été très fidèle, je lui ai écorché les oreilles. » Fin de citation. L'historien faisait ici allusion à la place de l'Espagne dans son parcours et sa démarche scientifique. Pierre Chaunu a consacré peu d'ouvrages à l'Espagne stricto sensu. Elle correspond pour l'essentiel à sa première vie scientifique. Cependant, l'Espagne n'en demeura pas moins l'un des fils d'Ariane de sa carrière, dépassant largement les premières années. Il le rappelait d'ailleurs lors de la même conférence prononcée à la Casa de Velázquez, que je recite. Au moment où je m'écartais de ce qui avait été mon premier champ de recherche, la présence de l'Espagne, sous des formes discrètes, allait m'aider. Séville, Madrid et Simancas ne sont pas de si mauvais observatoires. Fin de citation. Preuve de cette place constante de l'Espagne, elle conserva une place importante dans nombre de ses écrits. Ainsi, la recension de l'ouvrage « La civilisation de l'Europe classique », recension rédigée par Joseph Pérez, pour la revue Le Bulletin hispanique en 1966, remarquez tout ce que ce livre apportait aux hispanistes. Selon Joseph Pérez, l'auteur y montre comment l'Espagne participait à l'Europe classique et, au contraire, comment elle s'en éloignait. Autre preuve de cette place constante de l'Espagne, elle demeura au cœur du magistère de Pierre Chaunu. En effet, une génération d'historiens et d'hispanistes ont travaillé avec l'historien entre les années 70 et 80. Que l'on songe aux thèses de Annie Molinier, Christian Herrmann, Guy Le Meunier, René Quatrefages, Michel Escamilla ou Bernard Grimberg, ces travaux témoignent de l'influence que l'historien a exercée sur l'hispanisme. Cette influence rend alors pertinent le fait d'interroger la portée et la place de l'Espagne de Pierre Chaunu dans les évolutions historiographiques récentes. Il s'agit de se demander ce que le monde hispanique de Pierre Chaunu, des XVIe et XVIIe siècles, raconte à l'historien du XXIe siècle. Ce questionnement, est d'autant plus légitime que ce monde hispanique constitue l'espace d'une première mondialisation ibérique qui connecta l'Espagne à de vastes territoires extra-européens. Héritage des aventures maritimes du XVe siècle, ces vastes territoires, américains et asiatiques, apparaissaient comme les horizons lointains des sociétés occidentales de l'époque moderne. Dès lors, dans un contexte de mondialisation contemporaine, de globalisation de la recherche, d'élargissement des échelles d'analyse de l'historien, en quoi l'Espagne de Pierre Chaunu permet-elle de penser les évolutions récentes de la recherche? Une telle interrogation, qui lie passé et présent, se trouve d'ailleurs pleinement en prise avec la conception et la vocation que Pierre Chaunu attribuait à l'historien. Cette vocation est celle d'une histoire engagée et utilitariste, une histoire permettant d'éclairer le temps présent sans néanmoins tomber dans l'écueil déterministe et téléologique. En effet, dans ses entretiens avec François Dos de 1994, Pierre Chaunu affirmait qu'il n'y a pas de passé en soi, car l'histoire est une réécriture constante qui se fait en fonction du présent. Donc, afin de répondre à ces questionnements que je viens d'esquisser, nous montrerons en premier lieu que le monde hispanique de Pierre Chaunu s'inscrit dans une ambition scientifique pionnière, qu'on peut résumer par la formule suivante, écrire l'histoire du désenclavement planétaire et des contacts. J'emprunte la formule à Pierre Chaunu. En second lieu, nous reviendrons sur la méthode de l'historien afin d'en comprendre la portée. La monarchie catholique de Pierre Chaunu constitue un monde mesuré et quantifié, mais un monde aussi rempli d'hommes. Et nous montrerons justement que Pierre Chaunu fait la synthèse finalement entre les deux. Soucieux de construire une preuve appuyée par le chiffre, Pierre Chaunu valide ses hypothèses par la mesure. Enfin, dans un troisième et dernier temps, je souhaiterais esquisser certaines directions de recherche actuelles. Plus précisément, il s'agira de comprendre en quoi ces directions s'inscrivent dans l'héritage, la continuité ou le dépassement des analyses de Pierre Chaunu. Alors, en premier lieu, l'Espagne de Pierre Chaunu s'inscrit dans un espace et une temporalité particulière. Je souhaiterais ici en dessiner les contours afin de comprendre les problématiques et la démarche scientifique de l'historien. Pour ce faire, je commencerai par évoquer un paradoxe. Pierre Chaunu joua en effet un rôle pionnier, et néanmoins parfois oublié, dans l'écriture d'une histoire qui cherche à comprendre les dynamiques d'un monde globalisé. Il est en effet étonnant de constater combien la World History passe parfois sous silence les apports de l'historiographie française en la matière, et de Pierre Chaunu en particulier. Si, quand on parle d'histoire-monde, Fernand Braudel est encore couramment cité, l'œuvre de Pierre Chaunu n'a pas encore connu ce destin. Et en relisant l'ouvrage qui avait été publié à l'issue du premier colloque il y a 10 ans, après le décès de Pierre Chaunu, Serge Grouzinski en fait, faisait exactement le même constat. Et il me semble que 10 ans après, ce constat reste en partie valable. Or, dès sa thèse de doctorat, Le Monde constitua l'horizon des travaux de Pierre Chaunu. L'Espagne de Pierre Chaunu n'est alors pas seulement péninsulaire et européenne, comme je le disais dans mon propos liminaire. Elle est d'abord l'Espagne hors de l'Espagne. Elle est l'Espagne désenclavée. En effet, en 1960, Pierre Chaunu soutient en Sorbonne 2 thèses. Les 12 volumes de Séville et l'Atlantique, 1504-1650, et la thèse complémentaire, Les Philippines et le Pacifique des Ibériques. Cette soutenance était l'aboutissement d'un immense travail commencé 11 ans plus tôt, en 1949, dans les archives de la Casa de Contratación à Séville. Dans la conférence intitulée « Mes Espagnes », donc prononcée à la Casa de Velázquez en 1999, Pierre Chaunu revenait sur la genèse de son sujet de thèse. Et donc, je voudrais reprendre ces mots, je le cite. « Le Pacifique est à prendre. Pourquoi ? Braudel m'avait mis sous les yeux une phrase de l'ami connu à Simancas, Earl Jefferson Hamilton, qui accuse la concurrence déloyale chinoise qui pompe l'argent de la Nouvelle-Espagne. On cherche dès lors à mieux comprendre, dans les économies anciennes, ce qui peut mouvoir les différences d'accélération. » Fin de citation. Dans ce travail qui relève d'abord de l'histoire économique, l'historien cherche à comprendre les rythmes à long terme des activités économiques et leurs répercussions sur de vastes ensembles. Plus précisément, Pierre Chaunu fait du monde hispanique un terrain d'analyse des mécanismes des grandes crises économiques. La question qu'il se pose en 1947, avant de partir pour Séville, est alors résumée en 1984 dans un entretien réalisé avec Edgar Morin. Je le cite. « Il y a un certain nombre de grandes cassures dans le temps, de grandes flexions. Il y en a une qu'on comprend très mal. C'est celle qui est au début du XVIIe siècle. Si on arrive à comprendre ces flexions antérieures, peut-être aura-t-on plus de prise sur celles qui risquent de se produire. » Fin de citation. Avouant être hanté à cette époque par la crise de 1929, il confesse que son ambition est de comprendre donc les flexions antérieures, les retournements de tendances antérieures, pour anticiper les risques à venir. Pour ce faire, sa démarche consiste à mettre au jour les facteurs du retournement de tendances économiques au début du XVIIe siècle. Partant de l'hypothèse d'un rôle moteur des nouvelles routes et des circulations métalliques, il pense initialement mettre en évidence un processus de compensation planétaire. Autrement dit, il songeait à démontrer qu'il y aurait eu au début du XVIIe siècle un phénomène de compensation entre le Pacifique d'une part et l'Atlantique d'autre part. Il souhaitait vérifier l'idée que le système commercial s'était effondré dans l'Atlantique en raison de sa captation par le Pacifique via Acapulco et Mani. Pour le dire encore autrement, les Chinois auraient capté l'argent de l'Amérique et provoqué ainsi la panne dans l'Atlantique. Cependant, l'entreprise de l'historien contredit l'hypothèse de départ. La corrélation entre le Pacifique et l'Atlantique était une corrélation positive et non négative. Pour le dire autrement, lorsque le trafic augmentait dans le Pacifique, il ne diminuait pas pour autant dans l'Atlantique. Les deux avaient des évolutions finalement assez symétriques. Les causes du retournement de tendance étaient donc ailleurs. Il s'agissait des hommes et de leur mort. Pierre Chaunu met alors en exergue l'importance de l'effondrement de la population indienne après 1492. Cet effondrement, d'environ 70-80 millions d'habitants à peu près 10 millions en une cinquantaine d'années, à peine 2 générations, soit une baisse d'environ 10 à 15% de la population mondiale de l'époque, causa ce qu'il nomme la panne des mines. La baisse de la main-d'œuvre indienne freina donc la capacité d'extraction des métaux précieux américains et leur arrivée en Europe. Dès lors, la conclusion suivante s'imposait. c'est l'homme, qu'il soit libre ou en l'occurrence ici dépendant, qui était le moteur de la richesse. Par conséquent, par le prisme hispanique, américain et économique, la démographie et la mort faisaient leur entrée dans les chantiers de cet historien. Dans la lignée de ses premiers travaux, Pierre Chaunu fut l'auteur de vastes synthèses. Il publia dans la collection Nouvelle Clio deux volumes consacrés à l'expansion européenne. Dans ses ouvrages, l'historien tonnait contre une forme d'européocentrisme. Et là, finalement, on peut voir aussi un pont entre les analyses finalement de Pierre Chaunu, qu'il aimait dès 1969, et certains prérequis, on va dire, de la global history très contemporaine. En effet, il y dénonçait dès 1969, je cite, « l'oubli de 55% de l'humanité ». Il invitait alors à écrire, et là encore la formule est de lui, « l'histoire du désenclavement planétaire des civilisations et des cultures, des contacts », pour reprendre un terme également qui aura par la suite une grande portée historiographique. Son monde hispanique est par conséquent un espace interconnecté et à l'horizon géographique élargi. En effet, pour Pierre Chaunu, l'Espagne et l'Amérique étaient indissociables. Dans l'ouvrage « Séville et l'Amérique au XVIe et XVIIe siècle », donc publié en 1977, qui est une version abrégée de sa thèse de doctorat, il explique en quoi l'étude du port andalou de Séville ne se comprend que dans une approche multiscalaire, une approche qui connecte les échelles locales et globales. Il déclare d'ailleurs présenter, je le cite, « un morceau de l'Amérique tel qu'on pouvait l'avoir de Séville », et d'ajouter « à partir du Guadalquivir, on voit l'Amérique comme dans le miroir d'un télescope que Newton n'a pas encore inventé. » Fin de citation. Lieu de départ et d'aboutissement des flottes des Indes, le port andalou était ainsi conçu comme un lieu de connexion de l'Espagne au monde, un espace intermédiaire entre l'économie monde européenne et les perspectives transatlantiques. Si l'Amérique constitue une voie majeure de ce désenclavement, elle n'en est pas néanmoins l'horizon ultime. L'Espagne de Pierre Chaunu s'ouvre également aux horizons pacifiques et asiatiques. En effet, à la lecture de « Conquête et exploration des nouveaux mondes », on comprend bien que l'Amérique et le marché asiatique, chinois en particulier, représentaient des objectifs indissociables pour les Castillans. Pierre Chaunu rappelle d'ailleurs, à la page 138 de cet ouvrage, que l'un des premiers gestes de Hernán Cortés, après la chute de Mexico, consista à envoyer ses émissaires contrôler la côte pacifique afin de repérer des sites portuaires. Cependant, si Pierre Chaunu insiste sur ces interactions, sur ces connexions et raisonne à échelle globale, il n'en insiste pas moins sur la rugosité de l'espace et du temps nécessaire pour le parcourir. L'historien montre une attention extrême au conditionnement de l'espace et des temps de parcours. D'ailleurs, dans son Charles Quint, coécrit avec Michel Escamilla, il précise, je le cite, « les hommes du temps, n'ont pas besoin d'Einstein pour savoir que l'espace ne se sépare pas du temps. L'espace que nous a légué Fernand Braudel et que nous avons étudié, Huguette et moi, dans Séville et l'Atlantique et le Pacifique des Ibériques, nous a servi. Ne jamais compter en lieu, mais en heure et jour, mois et année. » Pierre Chaunu dévoile ainsi combien ces réalités spatio-temporelles déterminent le possible. Les contraintes de l'espace et du temps jouèrent en effet un rôle majeur dans les rapports économiques et commerciaux entre les deux rives de l'Atlantique. Songeons par exemple à ces cartes, à ces graphiques qui parsèment le Séville et l'Atlantique que Pierre Chaunu tira du relevé des temps de parcours et des temps d'escale. Ces graphiques, ces tableaux, révèlent à quel point, malgré le caractère décisif du désenclavement planétaire, les espaces maritimes demeuraient très imparfaitement maîtrisés. En effet, la navigation transatlantique, et Pierre Chaunu le rappelle éminemment, tributaire des vents, des courants, des aléas inhérents aux conditions matérielles de l'époque, était confrontée à de lourds handicaps. Par exemple, pour n'en donner qu'un exemple, un voyage aller et retour de 2 ans voyait disparaître 15 à 20% des équipages. Le voyage était de surcroît fort onéreux et consommait une part importante des bénéfices escomptés. Cette rugosité de l'espace s'exprime alors par un souci de Pierre Chaunu de ne pas faire de l'Espagne un ensemble parfaitement cohérent, uniforme et connecté. En effet, les processus de désenclavement apparaissent ambivalents chez l'historien. Ils intègrent autant qu'ils excluent. Ils connectent autant qu'ils hiérarchisent les espaces et les sociétés. Preuve en est, l'Espagne de Pierre Chaunu demeure foncièrement plurielle. D'ailleurs, le pluriel « les Espagnes » est récurrent sous sa plume. Il apparaît par exemple au chapitre 4 du tome 8 de « Séville et l'Atlantique ». Parmi les nombreuses publications de l'historien, on retrouve ce vocable, ce pluriel, dans un article de 1963 intitulé « Les Espagnes périphériques dans le monde hispanique ». De même, dans l'expansion européenne du XIIIe au XVe siècle, Pierre Chaunu distinguait trois Espagnes dont les rapports oscillaient entre collaboration et inévitable rivalité. L'Espagne méditerranéenne, exclue du monopole des Indes, Pierre Chaunu, l'Espagne cantabrique et basque, qui y participe mais indirectement, notamment via le financement, les capitaux, les armements maritimes, et enfin l'Espagne andalouse, l'Espagne du monopole sévillan. Cette Espagne plurielle, hiérarchisée, n'est alors pas seulement actrice de la mondialisation, elle en est aussi l'objet. À cet égard, Pierre Chaunu décrit un glissement du centre de gravité de l'économie espagnole vers le sud, du cœur de la Castille vers Séville. Cette évolution est apportée à l'actif de deux facteurs. L'ouverture de la route américaine, d'une part, bien évidemment, et aussi la colonisation des terres gagnées sur les morts, d'autre part. Ainsi, à partir du terrain hispanique, l'histoire monde de Pierre Chaunu était avant tout une histoire globale. Elle ouvrait la piste des désenclavements et démontrait ce qui fait qu'au XVIe siècle, à partir du XVIe siècle, la Terre devint un globe que l'on pouvait parcourir, penser et exploiter. Cette histoire du monde hispanique ou histoire monde de l'Espagne est construite par des méthodes d'analyse spécifiques sur lesquelles je souhaiterais maintenant revenir pour en mesurer peut-être la portée, voire le dépassement. Dès son Séville et l'Atlantique, Pierre Chaunu est soucieux de construire une preuve appuyée par le chiffre. Il est en effet nourri de l'idée que la nature s'écrit dans un langage mathématique. Dès lors, les hypothèses formulées par un chercheur doivent être validées par la mesure. Pierre et Huguette Chaunu collectent ainsi une documentation gigantesque pour une étude sérielle. Cette étude entend mesurer les fluctuations du commerce atlantique à la fois en tonnage, mais aussi en valeur. Ce faisant, il s'agit d'approcher les grandes tendances et les grands mouvements économiques. Plus précisément, Pierre et Huguette Chaunu se lancent dans l'analyse sérielle des sources comptables de la série Contaduría des archives des Indes à Séville. Cette série contient notamment les livres de registre. Ces livres de registre renferment pour chaque navire engagé dans la route des Indes une description du navire, une liste des hommes, des marchandises transportées et aussi des impositions. Au total, plus de 30 000 liasses, de 1 000 à 2 000 folios en moyenne pour bien mesurer le côté gigantesque de l'entreprise scientifique. Par la suite, ces études quantitatives furent un temps contestées en raison des critiques dont elles furent l'objet, notamment à partir des années 1980. Certaines critiques dénonçaient une formalisation abusive des sources et un recours excessif à ce que l'on appelait alors la pesée globale. Par exemple, pour reprendre l'une de ces critiques, Jacques Crevel mettait en avant les risques, je reprends son expression, d'une fossilisation du réel et de catégories reçues plutôt que critiquées, décrites plus souvent qu'analysées. Pierre Chaunu lui-même évoquait en 1986, dans sa rétro-histoire, le dépassement de cette méthode, et je le cite. Passionné par la dynamique cyclique, à la tête d'une gerbe impressionnante de séries statistiques, je m'étais lancé dans une étude descriptive de la conjoncture qui me paraît aujourd'hui bien inutilement gonflée. Ces pages marquent néanmoins une étape utile et heureusement dépassée. Donc finalement, pour résumer, l'idée c'est que pour Pierre Chaunu, cette méthode quantitative marque une étape dans l'histoire de l'histoire finalement, mais qu'elle invite aussi à un dépassement. Cependant, avec un peu de recul, on peut dire qu'après avoir un temps quitté le devant de la scène historiographique, ces approches quantitatives ont aujourd'hui, me semble-t-il, pleinement retrouvé leur place. Les méthodes de codification et d'exploitation sérielle des informations restent à l'ordre du jour, notamment pour les historiens de l'économie espagnole. Preuve en est, des entreprises scientifiques actuellement menées sont fondées sur la mise en série et attestent du dynamisme de cette méthode historique. Par exemple, mais j'aurais pu allonger les exemples, le projet Navigo Corpus met en série des itinéraires de navires. Il s'agit d'une base de données portant sur les itinéraires effectués par des navires de commerce entre les 17e et 19e siècles. Elle recense plusieurs données relatives à ces voyages, les trajets, les cargaisons, les armateurs, les capitaines, et on pourrait allonger la liste. Si Pierre Chaunu construit son histoire monde de l'Espagne sur des séries de chiffres, il ne sacrifie pas pour autant les dimensions humaines, culturelles et spirituelles. Son écriture historique est aussi chargée d'une épaisseur existentielle. On observe d'ailleurs à cet égard une évolution marquée dans le parcours scientifique de Pierre Chaunu. L'acteur, l'individu, est beaucoup plus présent dans des publications plus tardives. Je pense notamment à son Charles Quint, mais dont je laisserai le soin à Juan Carlos D'Amico d'évoquer, et aussi à Christophe Colomb, son ouvrage Christophe Colomb, que je voudrais un peu évoquer. Ainsi, dans son Christophe Colomb, publié en 1993, Pierre Chaunu commence à élaborer ce qu'il nomme la logique de l'imprévisible. Cette logique de l'imprévisible réévalue le poids des hommes dans le déroulement de l'histoire et rejette tout déterminisme. Elle est l'affirmation de la liberté individuelle comme moteur de l'histoire, qui fait de l'événement quelque chose d'imprévisible. Pierre Chaunu montre en l'occurrence en quoi la découverte de l'Amérique est le fruit d'un concours de circonstances difficilement prévisibles. Cet événement, ainsi que sa portée considérable, apparaît comme la résultante de la combinaison de plusieurs coïncidences. Première coïncidence, des erreurs scientifiques. Colomb pense ouvrir une nouvelle voie vers l'Asie et Colomb sous-estime en quelque sorte la taille du globe. Il pense que 5/6 du globe est faite de terres émergées. Deuxième coïncidence, l'existence d'un homme, qualifié par Pierre Chaunu de marin hors pair, décidé de passer à l'acte. Autre coïncidence, la rencontre entre un homme et une société sensible aux signes de la venue du Christ. Or, Pierre Chaunu explique combien Colomb se conçoit comme celui que Dieu a choisi pour porter au peuple la parole du Christ. Enfin, dernière coïncidence, sa force de conviction auprès d'Isabelle la catholique. Toutes ces coïncidences mises bout à bout créent cette logique de l'imprévisible. Ainsi, par cette notion, Pierre Chaunu réconcilie, à mon sens, longue durée et événement. Les tendances longues d'une part, ces cycles économiques, et les individus, la biographie d'autre part. 10 ans après la disparition de Pierre Chaunu, son héritage intellectuel demeure alors important. L'histoire du désenclavement qu'il appelait de ses vœux se poursuit dans différentes directions que je souhaiterais maintenant esquisser, ou en tout cas des directions que j'ai été amené dans mon parcours de jeune chercheur à, j'ai été amené à me familiariser. Premièrement, et de manière générale, on peut dire qu'il n'est plus possible d'étudier la monarchie catholique sans tenir compte de l'ensemble de ses composantes. Ainsi, les travaux de John Eliot, Tamar Herzog ou encore Serge Krusinski, et là encore j'aurais pu largement allonger la liste, insistent sur les interactions politiques, sociales et culturelles entre les différentes entités constitutives de la monarchie catholique. Ces travaux ne s'en tiennent pas aux seules possessions européennes ou américaines étudiées de manière séparée. Pour n'en prendre qu'un exemple, l'historien britannique John Eliot écrivait déjà en 2006, dans l'introduction de son livre « Imperios del Mundo Atlántico », qu'il lui semblait venu le moment de s'écarter de l'histoire de l'Espagne, de los Austrias et de l'Europe, et de regarder sans retard l'interaction espagnole avec ses possessions ultramarines. Si Pierre Chaunu faisait déjà des circulations économiques le moteur de ces interactions, l'approche économique et commerciale continue de susciter une riche production historiographique. Dans la lignée de ses travaux pionniers, les études ayant trait au fonctionnement, à l'organisation, à l'évolution du commerce entre l'Espagne et l'Amérique espagnole demeurent nombreux. Que l'on songe aux ouvrages de Horst Pichmann, de Isabel Lobato Franco en Espagne, Antonio Miguel Bernal, ces études continuent d'interroger la place singulière de l'Espagne dans l'économie mondiale du XVIe au XVIIIe siècle. Ils mettent notamment l'accent sur les fluctuations commerciales de ces échanges et sur l'importance des capitaux nécessaires au bon déroulement de ces entreprises. Ces travaux interrogent surtout la nature et les modalités d'un système atlantique espagnol. Ils présentent ce système atlantique comme le fondement d'un réseau dense d'échanges économiques, d'échanges politiques et culturels. Cependant, d'autres approches, à mon sens, ont élargi la démarche. Ces dernières années, l'étude de la structuration de la monarchie catholique autour de l'espace atlantique a été profondément renouvelée. Par exemple, l'idée d'un système atlantique longtemps dominante a été remise en cause, notamment par l'historienne américaine Alison Gaines. Cette remise en cause ne conteste pas l'existence même de ce système atlantique, mais elle en nuance certains aspects, pour mettre en avant peut-être d'autres aspects. Ainsi, les études les plus récentes traitent un peu moins le poids du commerce et des échanges économiques. Les relations entre la monarchie hispanique et les Indes sont davantage étudiées sous l'angle des interactions entre la société métropolitaine et les sociétés coloniales. Ces travaux réévaluent à la hausse le transfert de normes et de valeurs, comme celles liées à la monogamie, la propriété privée, ou encore la famille nucléaire comme modèle. À cet égard, l'Atlantique ibérique questionne l'organisation des mouvements de migration à l'échelle planétaire, à l'échelle intercontinentale, transocéanique. C'est l'objet du récent ouvrage de Alain Hugon, « La grande migration », qui interroge les conditions et les moteurs du départ de l'Espagne vers l'Amérique entre 1492 et 1700, ainsi que l'attitude des autorités face à ces déplacements de personnes. Parmi ces nombreux apports, l'étude montre que les autorités hispaniques étaient moins soucieuses des étrangers qui arrivaient que des gens qui partaient de la péninsule. Les autorités souhaitaient moins contrôler l'immigration que l'émigration. Enfin, je souhaiterais mentionner une troisième piste de recherche que j'ai été amené à rencontrer et qui permet d'interroger l'Espagne de Pierre Chaunu au regard des évolutions historiographiques récentes. Si Pierre Chaunu en appelait, et je reprends sa formule, à rompre les États, à raisonner à une autre échelle, plus globale, des travaux récents réintègrent néanmoins le rôle du politique et de l'État, mais dans une approche globale. Deux exemples me paraissent alors révélateurs de cette orientation. En premier lieu, le projet de recherche conduit par Lucien Belli, intitulé « Une histoire internationale de l'Europe et du monde », se situe à mon sens au cœur de cette dynamique. Il s'agit d'appréhender le désenclavement de l'Europe par le prisme des relations internationales, dans une approche globale. À partir de la notion de diplomatie monde, le projet explore les horizons extra-européens de la diplomatie européenne à l'époque moderne. Il analyse la présence des réalités coloniales et mondiales dans la diplomatie européenne. Il insiste en particulier sur la construction et sur la structuration des relations entre les sociétés et les États à l'échelle du monde, relations qu'il s'agisse de rapports de domination ou de rapports de soumission, d'échanges ou d'interactions. Deuxième exemple, révélateur de cette dynamique du retour en quelque sorte du politique dans cette histoire globale, une autre piste de recherche consiste à étudier le rôle de l'institution consulaire et des institutions plus généralement dans la pénétration commerciale des puissances européennes sur les marchés latino-américains. Ainsi, le projet porté par Xavier Huez de Lamps et Martin Rodrigo Araria, relatif, je le cite, aux expériences espagnoles et françaises de l'accès aux marchés extra-européens, 18e-19e siècle, ce projet ambitionne d'étudier l'institution consulaire en termes de projection et de connexion. Il se propose notamment d'analyser la manière dont les négociants européens mobilisaient les réseaux diplomatiques et consulaires pour soutenir leur pénétration commerciale sur les marchés latino-américains. Autrement dit, il s'agit de comprendre en quoi les consuls européens œuvrèrent, ou non, en faveur d'une interaction plus affirmée entre les espaces économiques ibériques, européens de manière plus générale, et américains. S'inscrivant dans la lignée des travaux que l'on a appelés des travaux de type néo-institutionnaliste, le projet réévalue le poids des institutions publiques dans le désenclavement du monde. Autrement dit, il s'agit peut-être de démontrer, en tout cas de vérifier l'hypothèse que la mondialisation ne serait pas seulement un processus autorégulé par une forme de main invisible, mais que le politique, l'État, l'institution est aussi actrice plus ou moins importante de ce processus. Pour conclure, l'Espagne de Pierre Chaunu se mesure moins, à mon sens, en nombre d'articles ou de pages noircies que par l'influence que l'historien a exercée sur une génération de chercheurs. Espagne aux quatre vents, Elle est l'actrice d'une première mondialisation ibérique. Influencée par le modèle brodélien d'une histoire désenclavée, Pierre Chaunu porte un regard global sur l'histoire du monde hispanique. Autrement dit, il pense l'Espagne comme un espace interconnecté au monde. Ce faisant, il s'attache à comprendre les processus d'accrochage et de mise en relation. L'historien fait alors de l'océan un territoire, c'est-à-dire un espace délimité, mais aussi en voie partielle d'appropriation. Il pense l'Atlantique et le Pacifique moins comme des coupures entre les continents, mais plutôt comme des traits d'union, même si on l'a vu, ces processus de désenclavement sont extrêmement inégaux et sont évidemment à nuancer. Il ne néglige pas pour autant, d'ailleurs, les effets de distanciation. En outre, Pierre Chaunu ne sépare pas les tendances longues, les fluctuations cycliques des hommes. De chiffres et d'hommes, son Espagne est chargée, comme je l'ai dit, d'une épaisseur existentielle qui laisse toute sa place à l'imprévisible. Ne cherchant pas à ordonner les événements selon une pure logique mécanique, l'historien met au jour les hasards et les coïncidences. Ne cherchant pas également à ordonner selon cette logique mécanique les événements, eh bien, ils montrent toutes justement leur part de mystère. Les travaux de Pierre Chaunu, les chemins empruntés par cet historien ainsi que les intuitions formulées construisent ainsi ou constituent une invitation pour l'historien du XXIe siècle. Invitation à poursuivre l'écriture d'une histoire des désenclavements, des connexions et des contacts, sans préjugés historiographiques ou méthodologiques. Invitation également à mêler les échelles d'analyse, du local au global, en privilégiant les situations de contact, mais sans négliger les effets de distanciation. Donc bien comprendre que la mondialisation est un processus ambivalent qui connecte autant qu'il peut exclure et hiérarchiser. Ce faisant, invitation également à dépasser les frontières nationales et aussi impériales, sans séparer de manière systématique les empires britanniques, français, hollandais ou ibériques en fonction des sujets abordés. Une telle démarche fait écho aux mots par lesquels Pierre Chaunu concluait les Philippines et le Pacifique des Ibériques, et mots par lesquels je conclurai et je terminerai mon intervention, je le cite. Atlantique et Pacifique, Europe et Extrême-Orient ne s'expliquent donc pas l'un par l'autre. Ils sont l'un et l'autre solidaires d'un même destin qui, incommensurablement, les transcende. Je vous remercie pour votre attention.